Merci beaucoup. Excusez-moi. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous adresser aujourd'hui. Merci beaucoup à ceux qui sont restés réveillés tard pour m'entendre parler de si loin en Autriche. Je sais qu'après une longue journée, moi ce que j'aime préfère faire, c'est regarder des vidéoconférences. Non, c'est pas vraiment ça. Donc je vous remercie vraiment de votre patience et de votre attention. Je voudrais m'excuser d'avance au traducteur parce que je parle très vite quand je m'intéresse à mon sujet et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc je vais faire de mon mieux pour parler à un rythme qui permet la traduction en temps réel. Mais d'avance, mes excuses pour mon exubérance inévitable qui se manifestera pendant cette présentation. Alors, cette présentation de ce soir est adaptée d'un op-ed que j'ai écrit dans un magazine qui s'appelle The Locust Magazine, qui est un magazine de science-fiction qu'on peut retrouver notamment dans... Et c'est un magazine dans lequel j'écris depuis longtemps, ça fait 13 ans je crois que j'écris dedans. Et j'ai commencé à avoir en quelque sorte une révélation, une épiphanie quand j'ai écrit mon article précédent. Parce que d'habitude les articles sont plutôt courts, peut-être environ 1000 mots. Et là, cet article-là était beaucoup plus long et il a rempli la moitié de cette édition du magazine. Et l'éditeur a été vachement sympa de me publier. Et je pense que c'est un peu un condensé d'un ensemble de problèmes qui me touchent personnellement. Et je pense que ces problèmes sont aussi en rapport avec le thème de cette conférence. Et dans cet essai, j'ai pu les écrire d'une façon que je n'avais pas entendue avant. Et c'est pour ça que j'ai envie de pouvoir développer ces sujets aujourd'hui. D'une façon nouvelle. Je voudrais remercier les contributions de tous les gens qui m'ont permis d'écrire cet essai et qui m'ont inspiré. Alors, l'essai en question s'appelle IP, mais le talk que j'ai s'appelle We used to have cake, now we've barely got icing. On avait du gâteau et maintenant il nous reste à peine le glaçage. Donc, si vous êtes dans l'audience de cette conférence, vous avez probablement entendu parler du logiciel libre et vous avez peut-être entendu parler aussi de l'open source et vous avez sûrement entendu parler des distinctions aussi entre ces deux termes. Alors moi, ça fait depuis le siècle dernier que je m'intéresse à ces problèmes, mais à l'époque, je ne comprenais pas forcément ce qui se passait en arrière-plan de tout ça. Et je n'avais pas compris toutes les considérations jusqu'à assez récemment. Parce que en me renseignant sur le monde de l'open source et du logiciel libre, j'ai eu une révélation qui a transformé ma vision de la chose. Le logiciel libre a ses origines quand un chercheur en IA est devenu activiste. C'était Richard Stallman et il a créé le projet GNU en 1983 et il a créé la licence publique GNU, la GPL. La GPL est une licence à copyright pour les programmeurs qui veulent partager leur travail. Si vous publiez votre travail sous licence GPL, ça veut dire que n'importe qui dans le monde peut exécuter votre programme, étudier le code, améliorer le code et partager le code qu'ils ont amélioré avec d'autres personnes à condition qu'ils y appliquent la même licence. La GPL est une licence à copyright pour du code. Et c'est arrivé à peu près au même moment que le copyright lui-même pour le code. Parce qu'en 1983, aux États-Unis, le logiciel était plus ou moins vu comme un travail fonctionnel qui, aux États-Unis, n'est pas sujet à copyright. Mais en 1983, dans un procès, Apple versus Franklin a remis en question la nature du copyright pour logiciel et l'interprétation de la loi a été changée de telle façon que l'interprétation dominante est devenue que le logiciel est soumis au copyright. Et donc, maintenant qu'on a la notion de copyright sur du code, ça veut dire qu'on peut prendre le code qu'on a écrit et le fermer. De telle façon que personne ne pourrait prendre le code que vous avez écrit et le modifier ou le republier. Aujourd'hui, on pense que le fait de publier du code sous licence libre, c'est un acte, un peu une démarche, parce qu'on s'engage à ne pas poursuivre en justice des gens qui vont peut-être modifier le programme ou qui vont forquer le projet, etc. Et donc, rendre son logiciel libre, c'est promettre la liberté à ses utilisateurs. Quand on parle de libre, comme dans le discours libre, comme la liberté d'expression. Mais en 1998, le logiciel libre était un peu problématique pour certaines personnes qui ont commencé à décider que le terme logiciel libre, et en anglais libre c'est free qui peut aussi vouloir dire gratuit, et donc que ce terme était problématique parce qu'on ne pouvait pas commercialiser ce code, et ça faisait une espèce de concurrence au logiciel commercial. Et donc le mot open source a été créé. Le terme open source implique que le code peut être analysé, et le fait de pouvoir analyser, étudier du code permet de l'améliorer ou de repérer des bugs, puisqu'il est clair qu'avec suffisamment de gens qui regardent le code, tous les bugs peuvent être détectés. Donc revenons en 1983, à la naissance du logiciel libre. À ce moment, la notion de copyright pour du logiciel était complètement neuve et personne ne comprenait vraiment sa portée. Les brevets logiciels étaient quelque chose dont on n'avait jamais entendu parler et c'était presque impossible d'en obtenir un. Les contrats licences d'utilisation, les termes et conditions, et tous ces contrats que vous engagez à respecter dès que vous ouvrez un logiciel ou vous cochez une case dans un logiciel, tous ces contrats n'étaient pas considérés comme étant vraiment quelque chose qui pouvait s'appliquer légalement. Il n'y avait pas non plus de loi qui empêchait de contourner des protections comme les DRM. Et il n'y avait pas non plus de ce qu'on appelle les para-copyrights maintenant, comme ce que Oracle essaye maintenant d'établir dans leur procès contre Google en disant qu'une API peut être sujette à copyright. Et donc, à l'époque où le logiciel libre est né, si vous vouliez améliorer, modifier, changer n'importe quel logiciel, tout ce que vous aviez à faire, c'était reverser le faire de l'ingénierie logicielle sur le logiciel et le modifier. La GPL n'était pas une permission de faire quelque chose de nouveau, c'était juste une continuation de ce qui existait déjà. Les gens qui savaient écrire du code se comportaient déjà comme si modifier du code existant, c'était déjà quelque chose qu'ils avaient le droit de faire. Et ce n'était pas en prenant en considération les compagnies ou les auteurs, les entreprises ou les auteurs qui publiaient ce code. C'était juste quelque chose qui se faisait. Et donc la GPL était un moyen pour les entreprises et les auteurs qui produisaient du code de rendre ce procédé plus simple en publiant leur code afin que les gens qui voulaient le modifier n'aient pas à passer du temps à réverser le code, à comprendre ce qui se passait et pouvaient juste directement le modifier. Et ça permettait ça d'améliorer ce qui avait déjà été fait. Ce n'était pas une question de compétition ou quoi que ce soit. Donc la GPL, c'était vraiment le glaçage sur le gâteau. Appliquer la GPL sur votre code, ce n'était pas une promesse que vous n'alliez pas coller un procès à la personne qui allait modifier votre code, puisque dans la compréhension collective, il n'y avait pas de droit à défendre son logiciel. Le logiciel était modifiable de toute façon. Il y avait un droit à la collaboration, un droit à la modification. Et donc, les gens qui étaient sur le côté et qui décidaient contre votre gré d'interopérer avec votre logiciel étaient vraiment dans leur droit. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 40 ans, le monde était complètement différent en termes de copyrights sur logiciel, de brevets, de contrats licence d'utilisation, de protection anti-contournement, de toute cette affaire Oracle versus Google. Et simplement du fait que le code, maintenant modifié du code sans la permission de son auteur, c'est un peu un suicide d'une certaine façon judiciaire. Si vous osez modifier, à améliorer ou remplacer un logiciel dominant ou un service logiciel dominant, vous êtes sous le risque d'être mis en faillite par les frais de justice, voire même d'aller en prison. Donc il y a 40 ans, on avait ce délicieux gâteau de liberté logicielle. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est le glaçage. On a oublié qu'il y avait un gâteau en dessous avant. Si on ne peut pas définir le logiciel comme étant libre, peut-être qu'on devrait juste pas y toucher. Alors, je vais définir un peu ce que je pense quand je dis interopérabilité. C'est un petit peu compliqué. Il y a des versions un peu moins techniques comme la compatibilité, mais le terme d'interopérabilité, à mon sens, est plus précis que ça. Techniquement, l'interopérabilité, ça veut dire que deux produits ou deux services peuvent travailler ensemble. Par exemple, pensez à ouvrir un fichier Word dans Google Docs ou utiliser des cartouches d'encre tierce partie dans votre imprimante, ou juste remplacer le bandeau de votre montre. L'interopérabilité, c'est cette caractéristique large, universelle, essentielle de toute technologie. Et l'interopérabilité, c'est l'état par défaut du monde. J'ai fait griller des hamburgers hier soir sur mon barbecue à charbon. J'ai pu choisir le charbon que je voulais. J'ai pas dû acheter le charbon du fabricant de mon barbecue. Les ampoules au-dessus de moi, quand je veux les changer, j'achète n'importe quelle marque d'ampoule et juste je les visse dans la douille et ça marche. Quand je mets mes chaussures, je porte n'importe quelle chaussette, pas des chaussettes imposées par le fabricant de mes chaussures. Donc, une partie de ça découle de la standardisation. Ça, c'est quand les fabricants, les académiciens, les régulateurs et tous les gens qui ont un intérêt dans ce domaine s'assemblent et développent un standard. Ou une organisation va développer un standard pour déterminer comment quelque chose doit être fait. Comme par exemple, ils vont définir pour une ampoule la direction et l'écartement du filetage de l'ampoule. Ou par exemple, pour un navigateur, la syntaxe d'une requête HTTP. Ou même pour une toilette, un siège de toilette, comment est agencé le tuyau pour qu'on puisse installer facilement un nouveau siège de toilette chez soi. Et ça rend l'interopérabilité facile. Si on pense par exemple aux tailles des feuilles de papier, les feuilles A3, A4, le grammage du papier, ça vous permet d'acheter n'importe quelle marque de papier et de le mettre dans votre imprimante sans avoir à modifier ce papier ou l'imprimante. Et donc si on ne standardise pas les choses, on ne peut pas avoir d'interopérabilité. Par exemple, au début de l'histoire du rail en Australie, les compagnies de transport ont installé des rails qui avaient des écartements différents. Et ça a mené de nos jours à des trains qui ne peuvent pas aller sur certains des rails qui ont été installés dans certaines régions de l'Australie. Donc, l'interopérabilité peut aussi être atteinte en modifiant les choses. Par exemple, si le papier ne rentre pas dans l'enveloppe, on peut le plier ou le couper. Si le train ne peut pas rouler sur les rails, on peut peut-être modifier ses roues pour qu'il puisse rouler sur plusieurs écartements de voie. Et il y a eu des tas d'inventions de ce style-là, mais il s'avère qu'elles sont très chères et qu'au final, c'est moins cher de remplacer les rails. C'est ce qu'ils font maintenant. L'interopérabilité permet de réduire le coût de changer de solution. C'est-à-dire que quand vous voudrez changer d'une solution A à une solution B que vous pensez être mieux pour vos besoins, vous pourrez faire ça. Mes grands-parents ont grandi dans l'Union soviétique et se sont réfugiés dans l'Ouest. Et pour eux, le coût de changer a été très très élevé. Quitter l'URSS dans les années 40, ça avait un coût énorme. Ils ne pouvaient pas parler à leur famille. Pendant des années, ma grand-mère n'avait aucun contact avec sa famille à Leningrad, à part par du bouche à oreille, quand peut-être des gens qui habitaient en URSS à l'époque avaient un visa, un très rare visa pour venir au Canada. Et elle pouvait les rencontrer. Alors que moi, il y a 5 ans, j'ai déménagé, ma famille a déménagé entre ici et Los Angeles. Et je suis en contact avec ma famille tout le temps. Quand moi, j'ai déménagé, mon laptop, mes livres sont venus avec moi. Alors, bien sûr, j'ai abandonné des choses comme mon électroménager parce qu'il y avait des différences de tension. Mais il y a des choses que j'aime beaucoup. Ma Theremin, par exemple, je l'ai emmenée avec moi et j'ai acheté un adaptateur de tension et je peux l'utiliser ici. Mais les entreprises aiment beaucoup augmenter le coût de changer. Parce que si vous voulez commercialiser un produit, c'est mieux si vous pouvez commencer à l'utiliser facilement, mais que c'est difficile d'en changer après. On peut parler par exemple dans l'industrie pharmaceutique de l'oxycontine qui a lancé l'épidémie des opioïdes en Amérique du Nord. Parce que les gens devenaient complètement accoutumé, complètement dépendant à ces opioïdes. Et on sait maintenant qu'à l'époque, les dirigeants de ces entreprises se frottaient les mains et savaient que ces produits étaient très faciles à commencer, très durs à arrêter, et qu'ils allaient faire fortune à cause de ça. On a d'autres exemples dans le monde du logiciel, par exemple Facebook. Facebook est très facile à commencer, la barrière d'entrée est très facile. Et Facebook utilise énormément de tactiques pour faciliter votre entrée. Par exemple, ils font en sorte d'avoir vos contacts pour pouvoir directement vous rendre ami avec des gens qui vous intéresseront. Et une fois que vous êtes sur Facebook agrège énormément de contenu pour vous de l'Internet, pour vous garder dessus. Et Quand vous avez, si vous êtes sur Facebook et que vous avez juste des amis de Facebook, Facebook va rapidement essayer de vous faire suivre vos amis, peut-être d'autres plateformes dessus. Mais quand vous voulez quitter Facebook, il n'y a pas de façon simple de faire ça. Vous ne pouvez pas juste aller sur une autre plateforme et poster dessus et faire en sorte que vos amis voient vos messages d'une autre plateforme. Et vous ne pouvez pas répondre à leurs messages de Facebook. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas les voir. L'interopérabilité est quelque chose que Facebook a utilisé pour agréger tout ce contenu de l'Internet, du web ouvert. Et ça, c'est un peu la clé de la détermination de notre époque. Je vais faire une analogie. Quitter Facebook aujourd'hui, c'est un peu comme ma grand-mère quittant l'URSS il y a 40 ans. Si vous quittez Facebook, vous quittez vos proches, vos communautés, vos relations. Alors, je ne vais pas dire que c'est aussi difficile que de se séparer d'une addiction aux opioïdes, mais ce n'est pas pour autant que c'est simple. Et il faut se rappeler que le fait que vous êtes sur Facebook, c'est que vous êtes aussi un otage qui empêche quelqu'un d'autre d'en partir. Donc, la clé, c'est que tout le monde cherche à minimiser ses risques, que vous êtes soit une personne, un employeur, une entreprise, un technologiste. Vous voulez pouvoir utiliser Google parce qu'il rend votre vie meilleure ou plus simple, mais vous voulez pas que Google change vos services. Parce que ça vous complique la vie. Je suis toujours en colère que Google ait tué Google Reader il y a une dizaine d'années, parce que c'était un produit que j'adorais et que j'utilisais tous les jours. Alors, Google, de son côté, veut s'assurer que ses utilisateurs, vous, restez sur ses services et continuez à les utiliser. Alors, ils peuvent faire ça en s'assurant que vous êtes tellement ravi des produits que vous n'avez même pas pensé à en partir. Mais l'autre façon, c'est simplement d'entremêler ces produits et ces services avec votre vie. S'assurer que par exemple vos enfants ne peuvent pas aller à l'école s'ils n'ont pas des comptes Google Classroom, d'insérer Google Search dans votre système d'exploitation mobile, de modifier la façon dont le web fonctionne pour insérer des systèmes de tracking avec Google Analytics qui font que même si vous vous en rendez pas compte, dès que vous utilisez le web, vous êtes encore un utilisateur de Google. Donc avec ça, il y a un risque, le risque pour vous augmente, mais le risque pour Google diminue. Puisque Google a, plus vous l'utilisez, plus Google a un risque bas que vous quittiez ses services. Et plus Google peut vous garder captif de son écosystème, plus Google peut profiter. Et il sait, Google sait que vous n'allez pas partir parce que le coût de partir a augmenté pour vous. L'interopérabilité vous garantit d'échapper à ces situations, puisque vous aurez la possibilité d'en partir peut-être incrémentalement. Par exemple, vous avez un téléphone que vous appréciez. Mais l'application que vous voulez utiliser dessus a été bannie par son App Store. L'interopérabilité peut vous sauver ici. Vous pouvez ajouter un deuxième App Store sur votre téléphone. Vous avez toujours votre téléphone, vous avez toujours vos apps, vous avez toujours toutes les données sur votre téléphone et vous pouvez utiliser cette application que le fabricant ne veut pas que vous utilisiez. Sans interopérabilité, vous n'avez pas ce choix. C'est tout ou rien. Si l'App Store bloque une application que vous voulez, le prix pour vous de récupérer cette app, c'est de jeter votre téléphone, toutes ces applications, tout ou partie des données que vous avez sur ce téléphone. Donc cette application a intérêt à être vachement bien, parce que sinon personne ne va se donner la peine de faire ça. Donc, de manière générale, on peut dire que l'interopérabilité, c'est une forme de démocratie. Les gens ne disent pas qu'ils aiment la ville, mais pas ses lois. On ne dit pas aux gens que la loi, c'est la loi, et que si on n'aime pas la loi, il faut partir. Non, on a des processus pour que la loi d'une ville puisse être modifiée. Et si vous n'arrivez pas à modifier cette loi et que vous décidez que vous voulez dans une autre ville, vous pouvez rester ami avec les gens que vous avez laissés dans la ville que vous avez quittée. Vous pouvez ramener vos affaires avec vous. L'interopérabilité vous laisse modifier les lois et garder votre maison ou garder votre maison et aller chercher de nouvelles lois. Donc, toute cette réflexion, pour moi, ça a commencé quand je réfléchissais à la notion de logiciel libre et à cette période où, dans le passé, où logiciel libre, c'était un peu l'état par défaut. À une époque où il n'y avait pas des contrats licence d'utilisateur final, des accords de non-compétition, des brevets, etc. À l'époque, tout le monde pouvait, sous réserve de compétences techniques, analyser un programme, le réverser, le modifier, le remplacer, l'améliorer, ou carrément oui, l'éclipser avec un produit meilleur. Maintenant, dans ce monde de glaçage sans gâteau, le défaut a changé. Et On y voit maintenant cette idée que le logiciel libre est venu ici en faisant une révolution, en rajoutant le glaçage. C'est presque impossible d'imaginer en fait la transition qu'il y a eu à l'époque, tellement notre point de vue a changé. Le nombre d'initiatives, les choses, le nombre de concepts réglementaires qui existent autour de l'interopérabilité a un nom. On appelle ça la propriété intellectuelle. Et les proponents du logiciel libre et de ces choses-là n'aiment pas le terme de propriété intellectuelle. Pour deux raisons. Déjà parce que c'est un terme qui est imprécis et aussi parce que c'est un terme qui est malhonnête. Alors parlons de l'imprécision. Avant qu'on invente le terme propriété intellectuelle, si on voulait parler d'une des choses que ça englobait, il fallait nommer cette chose. Si vous voulez parler de copyright, vous disiez copyright. Si vous vouliez parler de brevet, vous disiez brevet. Le fait de faire un agglomérat de brevets, de copyright, de marques déposées et tout ça, ce n'était pas quelque chose de très utile parce que c'était des choses très différentes. Dans certains cas très rares où on avait besoin de parler de plusieurs de ces choses. Et dans ce cas-là, on parlait du monopoly du créateur ou du monopoly de l'auteur. Des monopoles, pardon, de l'auteur, pas de monopoly. La notion de propriété intellectuelle maintenant, c'est une malhonnêteté rhétorique, puisque ça permet une confusion entre les différentes formes de propriété intellectuelle. Parce que si on réfléchit en termes de copyright, on a diverses façons de penser le copyright. On a le régime français, la Convention de Berne, et on a le régime américain. Et malgré des différences profondes entre les deux parlent d'incentiviser les créateurs et de ne pas permettre que ces raisons pour les créateurs de créer deviennent si importantes et si restrictrices pour les autres que personne ne puisse reprendre, modifier, recréer. Aucune de ces deux notions ne couvre les idées. Les deux ne couvrent que les expressions des idées. Les brevets, eux, sont complètement différents du copyright. Les brevets sont un compromis. Le but des brevets, c'est que les inventeurs décrivent comment leurs inventions marchent afin que ça ne soit pas gardé comme un secret, pour que d'autres inventeurs puissent étudier ces inventions et en créer des nouvelles, même dès qu'ils vont être en compétition avec l'invention originale. C'est pour ça que quand vous voulez déposer un brevet, il faut fournir un modèle fonctionnel ou un diagramme de votre invention qui doit être suffisamment détaillé pour que quiconque l'étudie puisse comprendre comment ça marche et faire un nouveau produit en compétition avec le vôtre sans violer votre brevet. Les marques déposées sont encore un autre concept. Ça, c'est un concept de protection des consommateurs. L'idée est que si quelqu'un fait de la pub pour son service, en se faisant passer pour votre service d'une façon qui va faire que les utilisateurs sont confus entre vos marques, vous pouvez utiliser ces droits pour avoir un recours contre cette personne pour qu'elle arrête. Par exemple, Coca-Cola a le droit d'empêcher d'autres personnes d'utiliser le terme Coke, mais uniquement dans le cadre où les gens pourraient penser qu'une autre boisson au cola serait du Coca-Cola parce que le terme Coke est utilisé. Si vous utilisez le terme Coke pour autre chose que du Coca-Cola, Coca-Cola n'a aucun recours là-dessus. Donc on peut voir qu'on a ici trois notions très différentes et appeler ces trois choses propriété intellectuelle, ça n'a pas de sens. Ça permet juste de créer de la confusion entre ces choses-là et de ne pas parler des choses clairement pour ne pas définir ce qu'on protège. Si vous dites mon idée a de la propriété intellectuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous avez une idée que vous voulez protéger pour vous? Est-ce que ça veut dire que vous avez publié comment vous avez implémenté cette idée, par quel procédé et que vous l'avez décrit pour que quelqu'un d'autre puisse comprendre comment ça marche? Ou est-ce que vous avez donné un nom reconnaissable à cette idée et que vous voulez protéger ce nom de marketing de personnes qui pourraient chercher à créer de la confusion. Donc, ce qu'on peut savoir, c'est que quand quelqu'un utilise le terme propriété intellectuelle, c'est que les gens pensent à une définition un peu abstraite, qui est la propriété intellectuelle, c'est n'importe quelle loi que je peux invoquer qui me permet de contrôler le comportement de mes concurrents, de mes critiques et de mes clients ou consommateurs. À nouveau, la propriété intellectuelle, c'est toutes les lois que je peux invoquer dans le but de contrôler le comportement de mes concurrents, de mes critiques et de mes consommateurs. Donc ça, c'est dans un monde où d'autres gens peuvent de façon complètement imprévisible agir contre vous pour limiter vos profits, pour vous ensevelir sous des scandales ou vous forcer à arrêter votre activité professionnelle. Le terme propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui fait que les gens peuvent vous empêcher de faire quelque chose qui répond à vos besoins, indépendamment du fait que ça réponde à leurs besoins ou pas. Il y a un autre concept qui est lié à ça, c'est les DRM, Digital Rights Management. Ça, ce sont des mesures logicielles qui sont mises en place pour vous empêcher de bénéficier de l'interopérabilité. Votre imprimante utilise les DRM pour vous forcer à acheter des cartouches d'encre fournies par le fabricant de votre imprimante. Votre téléphone utilise des DRM pour vous empêcher d'installer des applications qui ne viennent pas de son App Store. On a même des ventilateurs ou des machines à laver qui ont des DRM pour vous forcer à faire la maintenance, à faire la maintenance par des représentants du fabricant. Et s'ils décident que c'est plus intéressant pour eux de faire cette maintenance, plus personne ne peut la faire. Les DRM sont les mesures qui permettent de forcer ces choses-là. Les lois sur le copyright ont été changées pour interdire de contourner ces DRM. C'est quelque chose qui a commencé aux États-Unis en 1998 avec ce qu'on appelle la section 201. Mais peu de temps après, l'Union européenne a fait la même chose. Et puis ensuite, le Canada et bien d'autres pays. Très récemment, le Mexique, en juillet de cette année, ont mis en place des lois qui ont des conséquences similaires. Toutes ces lois interdisent de contourner les DRM. Donc ce sont des lois dans le monde du copyright, mais l'interdiction de casser les DRM n'est pas limitée au fait de contourner le copyright. Par exemple, si vous voulez modifier votre imprimante pour utiliser une autre cartouche d'encre que celle du fabricant dedans, il n'y a rien de copyright là-dedans. Vous n'êtes pas en train de copier du code, vous n'êtes pas en train de copier la trace des circuits. Mais même si vous n'êtes pas en train de violer un copyright, vous êtes toujours en train de contourner un DRM. C'est-à-dire que la loi, ici, interdit un comportement légal. Si vous jailbreakez votre téléphone, c'est interdit. Et ça, ce n'est pas une question de copyright, c'est une question de protection des entreprises. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas respecter le copyright, c'est juste simplement le fait de ne pas respecter les profits des entreprises. Par exemple, prenons une police de caractère qui s'appelle Goldman 100. C'est une police de caractère qui a été publiée librement par la banque Goldman Sachs. Et cette police vient avec une licence qui vous dit qu'en utilisant cette police, vous ne pouvez pas l'utiliser pour des textes qui critiquent Goldman Sachs. Goldman Sachs n'a pas besoin du copyright pour vous empêcher de critiquer l'entreprise. Goldman Sachs a besoin du copyright pour vous empêcher, pour contrôler votre comportement. Alors, ces mesures et ces lois ne sont pas vraiment nouvelles. Elles ont toujours été un petit peu sous-jacentes, sous la surface de toutes ces mesures qui s'accumulent. Et le risque dans toutes ces mesures, c'est qu'on n'ait pas assez de limitations sur les moyens qu'ont les entreprises de limiter vos droits. Par exemple, y a beaucoup d'exceptions dans les lois sur le copyright qui vous permettent de modifier, d'utiliser et même de vendre des choses qui sont sujettes à copyright si c'est pour un commentaire, si c'est pour une analyse, si c'est pour de la parodie. Et ça, ce ne sont pas des droits qui sont dépendants de la permission de la personne qui détient le copyright sur vos travaux. C'est des choses qui, justement, vous permettent de le faire sans permission. Ceci a aussi une limitation. Pardon, les brevets ont aussi une limitation. Pour avoir un brevet, il faut publier les détails de comment marche votre invention, afin que vos concurrents puissent créer des inventions à eux qui ne soient pas en conflit avec vos brevets. Et les marques déposées, elles aussi, ont des limitations. Ce n'est pas, par exemple, c'est pas, par exemple, quelque chose d'interdit par la marque déposée d'utiliser ce terme pour décrire quelque chose d'associé à votre produit. Vous pouvez avoir un magasin de réparation de téléphone dans lequel c'est écrit « On répare les iPhones ». Vous pouvez avoir un panneau sur votre distributeur de boissons qui dit cette boisson c'est meilleur que du coca. Donc ces exceptions existent depuis très longtemps, mais elles sont assez fragiles en fait, puisque une grande partie de l'efficacité de ces exceptions se base sur l'existence d'une forte compétition. Par exemple, si une entreprise veut affaiblir le droit à la parodie, par exemple, dans le copyright, il y aura d'autres entreprises qui ont besoin de ce droit-là, qui vont se défendre contre. Mais dans ces dernières décennies, il y a eu une sorte de consensus dans le monde du management et des gestions d'entreprise que ces exceptions sont des défauts, des problèmes à résoudre dans les droits sur le droit du copyright. Et donc, on a vu plein de nouvelles lois arriver avec le but de réduire, annuler ou contrôler ces exceptions. Et c'est comme ça qu'on a perdu le gâteau de la liberté logicielle et qu'on se retrouve avec juste du glaçage. Ces nouvelles lois sur le copyright qui interdisent les DRM ou des nouvelles jurisprudences comme celle que Oracle cherche à avoir contre Google en matière de copyright d'API et énormément d'autres mesures qui ont été prises en matière de secret industriel. Et ça permet d'avoir un arsenal qui s'enchevêtre, de telle manière que si les brevets peuvent permettre quelque chose, le copyright l'interdira. Si le copyright permet quelque chose, les marques déposées l'interdiront, etc. Et ça veut dire que tout le pouvoir a été placé dans des grandes entreprises et que toutes les obligations ont été mises sur vous, les individus. Alors, le terme copyright, avant, on appelait ça le monopole de l'auteur. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça a changé, mais la vraie raison, c'est simplement que personne n'a envie de se faire traiter de monopoliste. Et donc, la seule façon que les gens avaient de prendre la façon qu'avaient les gens d'augmenter leurs droits ou leur contrôle sur les choses, c'est d'aller devant l'Assemblée nationale, devant le Congrès, et de dire je veux plus de monopole. Ça passait pas. C'est pour ça qu'on a changé le terme, qu'on parle maintenant de copyright et qu'on parle de propriété intellectuelle. Alors, il y a tout à fait un sens auquel le copyright ou la propriété intellectuelle sont des monopoles. Moi, quand j'ai écrit cet essai, par exemple, j'ai obtenu un copyright qui me permet d'adapter, de représenter, de vendre, de copier cet essai. Mes rivaux peuvent être en compétition avec moi en publiant d'autres essais qu'ils peuvent essayer de vendre au même magazine ou de convaincre les mêmes lecteurs. Mais il n'y a que moi et moi seul qui puisse vendre cet essai que j'ai écrit. Et donc, dans ce sens-là, j'ai de toute évidence un monopole, puisque je suis dans un marché où il n'y a qu'un seul vendeur. Il n'y a pas de monopole plus pur que ça. Mais en termes de compétition, dans le droit de la compétition, c'est pas ça que ça veut dire un monopole. On ne dit pas une entreprise qui a 100% du marché. On dit qu'une entreprise a un monopole quand elle a un pouvoir sur le marché, c'est-à-dire le pouvoir de choisir les prix du marché. Une fois que HP a mis des DRM sur ses imprimantes, ils peuvent choisir le prix des cartouches complètement librement. Vous pouvez jeter cette imprimante et en acheter une autre, mais il s'avère que tous les concurrents de HP font exactement la même chose. Et ils utilisent aussi des DRM et toutes ces propriétés intellectuelles pour punir des concurrents qui essaieraient de lancer des imprimantes qui n'auraient pas ça. Donc les gens qu'on appelait à des monopolistes parce qu'ils avaient des copyrights, c'est pas faux, mais c'est vraiment très rare qu'un auteur ait le pouvoir sur le marché de décider du prix. Quel auteur peut décider combien il va être payé pour un livre? Alors bien sûr, il y a quelques très rares exceptions, mais la très grande majorité des créateurs n'ont pas du tout de contrôle sur les prix du marché. Par contre, il existe dans le monde du divertissement tout à fait des entreprises qui peuvent choisir les prix. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a quasiment qu'une seule chaîne de cinéma, AMC, qui décide des prix. On a quelque chose comme seulement 3 maisons de disques, 4 studios de cinéma, 5 grands éditeurs de livres. Et il n'y a qu'un seul vendeur de livres en ligne qui domine quasiment tout le marché de la vente de livres en ligne. Alors comment est-ce que ces monopoles se sont mis en place? Et bien, d'une certaine façon, ces monopoles sur des choses créatives sont arrivés de la même façon que les autres monopoles qu'on peut voir dans le monde aujourd'hui. On vit dans un monde de monopoles, que ce soit les lunettes, la finance, l'ingénierie civile, l'aérospatiale, etc. Dans tous ces domaines, comment est-ce que les monopoles sont arrivés? Simplement parce que les gouvernements n'ont pas essayé de limiter l'émergence des monopoles. Dans ces dernières décennies, les grosses entreprises ont acheté toutes les petites entreprises pour éviter de la concurrence. Elles ont fusionné avec leurs concurrents pour consolider leur pouvoir. Et grâce à leur monopole, ils peuvent extraire plus de profits de leurs employés, de leurs clients, de leurs fournisseurs, etc. Mais le monopole d'auteur, c'est quelque chose de différent. Et si on utilise le terme pour les deux, c'est un agrégat qui se prête à des contresens. Les monopoles d'auteur sont des monopoles qui sont durables, d'une façon dont les monopoles de marché ne sont pas. Imaginez que vous êtes Universal Music, vous contrôlez plus d'un tiers du monde de la musique. Vous avez un goulot d'étranglement qui ne peut pas être contourné autrement que par de la créativité. Qu'on peut pas combattre par de la créativité. Si vous essayez de concurrencer à Universal, vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous êtes considéré comme un criminel. Vous allez vous retrouver en procès. Si vous êtes le monopoliste du divertissement, vous pouvez coller des procès à tous les gens qui tentent d'être en compétition avec vous. Même s'il n'y a pas forcément de raison forte, vous pouvez quand même leur mettre une pression énorme. Il me manque la suite de mon talk, une toute petite minute. Oups. Je crois que j'ai essayé d'imprimer tout mon talk, mais j'ai dû manquer de papier, donc il me manque les dernières pages de mon talk. Et je profite de cette petite pause pour dire aux gens sur le stream que si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur privacyweek.at/ask. Ok, et me revoilà. J'ai ma présentation devant moi à nouveau. Ok. Donc, le résultat, c'est un monopole qui contrôle l'accès aux canaux de distribution et aux audiences, qui peut utiliser le pouvoir des États pour distribuer des amendes ou même mettre les gens en prison s'ils si ont l'audace d'essayer de s'attaquer à ce monopole. Et le monde de la tech a aussi des monopoles. Par exemple, Kindle Unlimited. C'est un véritable défi lancé aux éditeurs traditionnels. Et tous les livres publiés sur Kindle sur Kindle Unlimited viennent avec un DRM qui est lié à la plateforme d'Amazon. Il est interdit de contourner ce DRM pour lire ce même livre sur une liseuse d'un autre fabricant. D'après la section 1201 du DMCA, vous ne pouvez pas contourner ce DRM. Et les livres Kindle Unlimited ne sont pas vendus dans les librairies. Et donner un outil à un libraire pour qu'il puisse ajouter un livre Kindle Unlimited dans sa librairie, c'est un crime. Et comme Amazon agrège de plus en plus d'auteurs et de lecteurs, les auteurs qui veulent accéder aux lecteurs d'Amazon, parce qu'ils ont des Kindle, les auteurs doivent s'adresser à Amazon pour publier leur livre là-bas. Si vous donnez plus de droits, plus de copyright, un monopole plus fort aux auteurs, ces avantages ne bénéficieront au final que Amazon. Amazon va s'en saisir au nom de ses auteurs. Donc les monopoles d'auteurs ne sont pas des monopoles au sens où on l'entend. Juste parce que vous avez du copyright ne fait pas de vous un monopoliste. Mais si vous avez beaucoup de copyright, comme Amazon l'a sur beaucoup de livres, là vous pouvez avoir un monopole de marché. Et vous pouvez utiliser ça pour influencer les prix du marché pour votre propre profit. Donc, on arrive à peu près vers la fin de cette présentation. Et vous avez sûrement entendu cette citation de Marc Andreessen qui dit que le logiciel mange le monde. Et je respecte énormément Marc Andreessen, mais je veux dire, c'est pas vrai. Le logiciel a déjà mangé le monde. Si vous aviez aucun doute, je pense que le coronavirus a effacé tout ça. On est aujourd'hui en train de faire cette présentation, on se parle à travers du logiciel. C'est bien la preuve qu'il n'y a plus de distinction entre les droits du logiciel et les droits humains. Le logiciel est nécessaire à la liberté. On a du logiciel partout, dans les ventilateurs, dans les tracteurs, dans les brosses à dents, dans les sextoys, dans l'argent lui-même. Et là où on trouve du logiciel, on trouve de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire du logiciel qui est déployé pour contrôler les comportements des concurrents, des critiques et des consommateurs. Et ça te permet au monopoliste de punir toute personne qui essaie de contourner ce logiciel. La façon de changer tout ça, c'est de changer la façon dont fonctionne la société elle-même. Puisque le pouvoir s'est tellement concentré dans certaines entreprises, c'est que ces entreprises peuvent maintenant mettre juste assez de logiciels dans tous leurs produits pour pouvoir utiliser la propriété intellectuelle pour empêcher toute personne de regarder comment marche leur produit ou de leur faire concurrence. Et ça, c'est que le début. Parce que le logiciel, ce n'est pas juste une façon de mettre de la propriété intellectuelle dans des objets qui autrement seraient inertes. C'est aussi une façon de les automatiser, de les transformer dans des objets qui ne dorment jamais, dont la fonction est toujours de protéger les intérêts de leurs fabricants. Ils peuvent détecter et empêcher et signaler n'importe quelle tentative de leur faire concurrence ou de les remplacer. Ça, c'est un niveau de contrôle qui est bien au-delà de tout ce que les monopolistes les plus sociopathes de l'histoire ont pu rêver. Imaginez un patron qui contrôle ses employés en les mettant dans des maisons construites par l'entreprise, dans une ville construite par l'entreprise, en les payant dans une monnaie contrôlée par l'entreprise, qui ne peut dépenser que dans des boutiques contrôlées par l'entreprise. Ce patron a un avantage énorme et un niveau de contrôle inimaginable. Les employés ne peuvent même pas quitter ce travail parce qu'ils sont probablement endettés par rapport à leur endettés envers leur employeur s'ils ont voulu faire construire des maisons, par exemple, ou s'ils ont pris des prêts. Donc on est dans un monde où ces dettes ne peuvent peut-être jamais être repayées puisque ce patron contrôle entièrement la distribution de l'argent. Mais même ce patron ne sera jamais complètement tout puissant. Parce que sa monnaie, la monnaie que les employés reçoivent, ils peuvent peut-être s'en servir pour acheter des biens et ensuite les vendre pour des dollars interopérables qu'ils peuvent ensuite utiliser pour acheter des objets interopérables. Imaginez maintenant, les gens achètent des biens digitaux qui sont restreints et qui sont uniquement disponibles sur votre compte, que vous ne pouvez pas transférer à quelqu'un d'autre. Ces systèmes, sont là et vous surveillent en permanence, prêts à vous discipliner si vous prenez la moindre action qui, pourra mettre en danger les revenus de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a encore du gâteau et on a plus de gâteau, pardon, on a encore un petit peu de glaçage, mais bientôt on n'aura plus de glaçage du tout. On a plus besoin il faut plus qu'on parle de liberté du logiciel, il faut qu'on parle de liberté et de droits humains maintenant. Merci. Merci beaucoup Cory, merci pour cette présentation vraiment passionnante. C'est fascinant d'entendre cette présentation et les autres présentations qu'on a eues aujourd'hui sur le terme de propriété intellectuelle. Je suis même autrice et ça m'impacte très directement toutes ces questions de par exemple comment le marché du livre évolue. Bref, c'est fascinant. On a une question, enfin plutôt un commentaire, mais j'ai envie de le présenter quand même. C'est toujours un commentaire, jamais des questions. Mais je te promets que c'est un commentaire très, très sympa. Le commentaire, c'est peut-être qu'il y a une mécompréhension. Ce qu'on veut pas, c'est on veut pas une plus grosse part du gâteau. On veut juste pouvoir construire notre propre pâtisserie. Alors, je suis d'accord et c'est quelque chose qui me donne un peu d'espoir. Parce que on est à l'échelle globale à un point auquel les gens commencent à se rendre compte que ce qu'ils croyaient être un problème local est en fait une tendance globale. Par exemple, les gens sont très en colère contre le monde de la finance et la domination que ça a sur plein d'aspects de notre vie. Et en particulier en ce moment pendant la crise du coronavirus. Et il y a des gens qui sont très en colère à propos de leurs lunettes, parce que quasiment toutes les lunettes du monde sont faites par une seule entreprise, Luxottica en Italie, qui possède aussi toutes les boutiques de distribution, tous les opticiens, toutes les marques comme Dolce Gabbana ou toutes ces autres marques, tous les laboratoires comme Essilor et toutes les boutiques. Et ils ont augmenté leur prix de 1000% en 10 ans. Il y a des gens qui sont en colère parce qu'ils sont fans de lutte. Et il y a 10 ans, il y avait 20 ligues de lutte professionnelles. Et maintenant, il n'y en a plus qu'une. Et le milliardaire qui possédait ça a très récemment changé les droits de ces travailleurs pour dire qu'ils sont travailleurs indépendants au lieu d'employés et que maintenant ils ne sont plus assurés aux États-Unis. C'est des gens qui meurent à 50 ans parce qu'ils n'ont plus d'assurance médicale. Et donc, tous ces gens pensent qu'ils se battent pour une cause précise, que ce soit pour le climat ou limiter les droits des entreprises financières, les droits du travail. Tous ces droits, en fait, font partie du même combat. C'est le combat contre les monopoles. Et moi, ça me rappelle ce qu'on avait dans les années 70, avant l'invention du mot écologie. Avant l'invention du monde écologie, on avait des gens qui s'inquiétaient de la couche d'ozone, des gens qui s'inquiétaient de préserver certaines espèces de chouettes. C'est pas que ces gens étaient des ennemis, mais ils avaient chacun leur propre combat. Le terme écologie a permis de rassembler tous ces combats en un seul mouvement qui s'exprime de milliers de façons différentes. Et là, on est sur le point de la réalisation que ce régime régulatoire plutocratique et autoritaire de tous les jours, c'est le résultat de nos décisions il y a 40 ans de ne plus appliquer les lois contre les monopoles en Europe, aux États-Unis, au Canada et dans le reste du monde aussi. Et ça nous a donné cette situation présente dans laquelle toutes les industries sont dominées par une poignée d'entreprises. Alors, il nous reste une dizaine de minutes et on a quelques questions. Alors, en voilà une qui est un peu longue. Est-ce que vous pensez que des méthodes comme les DRM sont le résultat d'une incapacité ou d'un refus de changer le modèle économique? Ou est-ce que c'est parce que la copie digitale est essentiellement gratuite? Alors, je pense que ça, c'est l'argument qu'on utilise quand on veut promouvoir les DRM. Si on a des DRM, on n'a pas besoin de s'adapter à un monde dans lequel les entreprises vendaient avant des disques et maintenant n'ont pas besoin de s'adapter parce qu'on vend maintenant la musique sous forme digitale. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment ça qui soit passé. Regardez comment les DRM se passent. Les DRM ne sont pas utilisés pour empêcher la copie. Ils savent qu'il y aura de la copie. Le but, c'est d'empêcher des comportements qui sont légaux. Si on réfléchit par exemple à comment ça se passait dans les premiers jours du DRM, le premier système de DRM qui a été protégé par les lois sur le DRM, ça a été des lecteurs de DVD et des consoles de jeux. La principale utilisation des DRM dans les lecteurs de DVD, c'était le verrouillage par région. Parce que si vous êtes en Europe et que vous visitez les États-Unis en vacances et que vous allez à Times Square et que vous achetez un DVD là-bas et que vous le ramenez, vous ne pouvez pas lire ce DVD en Europe parce que vous l'avez acheté aux États-Unis. Aller dans une boutique, acheter une publication sous copyright au prix fixé par la personne qui l'a publié, c'est quelque chose de légal. C'est pas une violation du copyright. C'est l'opposé d'une violation du copyright. C'est quelque chose que le copyright est prévu pour permettre. Donc, dès les premières lois sur les DRM au milieu des années 90, le DRM n'existait pas pour empêcher la copie, mais pour empêcher des comportements légaux, y compris parfois des comportements légaux comme changer les formats, ou par exemple de pouvoir acheter, par exemple dans le cas des consoles, de pouvoir acheter directement des jeux depuis leurs auteurs. Par exemple, la Dreamcast était une des premières consoles qui était connectée au web. Il fallait acheter les jeux donc sur des CD. Mais pour que ces pardon, pas connecté web, la première console avec les jeux sur CD. Pour que ces CD marchent sur la Dreamcast, il fallait que ces CD soient fabriqués dans une usine Sega et qu'ils soient validés par Sega. Il y avait même de la cryptographie qui était utilisée là-dedans pour s'assurer qu'un disque inséré dans la console venait d'une usine Sega, pour s'assurer que Sega ait sa part du gâteau. Alors que si moi j'ai une Dreamcast et que vous faites un jeu Dreamcast et que vous faites ce jeu et que vous me le donnez directement sans passer par Sega, c'est l'opposé, enfin, c'est un comportement que la loi sur le copyright ne cherche pas à empêcher. Au contraire même, c'est pas une violation du copyright et que Sega le veuille ou non, c'est pas un problème qui devrait toucher Sega. C'est pas un problème non plus ni pour l'auteur ni pour le consommateur. Ce qu'on a à la place ici, c'est un système qui est conçu pas pour appliquer les lois sur le copyright, mais pour créer un nouveau régime légal complètement privé, dans lequel si vous mettez assez de DRM dans un objet quelconque pour pouvoir invoquer ces lois sur le DRM pour tout et n'importe quoi, eh bien, utilisez cet objet uniquement de utiliser cet objet d'une façon que vos consommateurs préfèrent, ça devient un crime. Et donc, plutôt que d'aller et de dire au Parlement, je veux une loi qui interdise de ramener des DVD des États-Unis, vous pouvez juste avoir des DRM. Et à la place, vous pouvez dire qu'il y a l'article 6 de l'EUCD qui est que ça soit légal ou pas d'avoir ce film, il est illégal de le lire en contournant les protections qu'on a mis dessus. Et il était très clair dès le début des lois sur le copyright que les gens qui ont écrit ces projets de loi se moquaient complètement de ces restrictions et du fait que ça empêchait des comportements légaux. J'ai moi-même eu un débat avec un ministre norvégien qui était en charge de mettre en place les protections anti-DRM. La Norvège n'est bien sûr pas dans l'Union européenne, mais ils se sont alignés sur le régime légal. Et un de ses arguments était que la loi avait une exception pour les gens qui étaient aveugles. Et donc cette exception marche de cette façon. Si vous êtes aveugle, vous, et uniquement vous, avez le droit d'acheter par exemple un e-book de chez Adobe, reverse engineer le format de fichier, de trouver un bug, de craquer l'e-book et ensuite de transformer ce livre en le passant dans un text-to-speech. Mais vous n'aviez pas le droit de demander de l'aide à qui que ce soit, vous n'aviez pas le droit d'aider qui que ce soit, vous n'aviez pas le droit de donner ce livre que vous avez transformé à quelqu'un d'autre, même aveugle, après avoir enlevé la protection de copie. Donc c'était très clair dès le début que cette loi avait pour but de permettre aux entreprises d'écraser toutes les limitations législatives sur ce qu'il ne pouvait pas faire. Même si la loi dit qu'il est interdit de discriminer contre les aveugles, la loi sur le copyright passe outre ça en autorisant les entreprises à structurer leurs produits de telle façon que même si en tant qu'aveugle vous pouvez lire ce livre, et ben vous ne l'êtes plus puisqu'il faudrait contourner un mécanisme de protection. Ouais, j'arrivais pas à croire que ce ministre était capable de sortir cet argument. Et il y avait des gens dans l'assistance qui riaient un peu nerveusement en disant, mais c'est vraiment ça son argument? Et regardez, maintenant par exemple, on peut dire les libraires ont un droit régulatoire d'acheter et de faire circuler des livres. C'est plus vieux que le copyright, c'est plus vieux que l'impression, c'est plus vieux que le papier. Les bibliothèques, les librairies prédatent le papier. On avait des papyrus avant ça. Et pourtant, Amazon, aujourd'hui, ne vendra pas ses audiobooks Audible ou ses e-books Kindle dans des librairies, à aucun prix. Et les gens trouvent que c'est vraiment pas bien que les librairies vendent à un prix, achètent des e-books et vendent des e-books à un prix trop élevé, mais Amazon ne veut même pas mettre un prix là-dessus. Il y a dans la loi un droit pour les librairies d'acheter et de faire circuler des livres. Mais Amazon, juste en ajoutant un petit peu de DRM, et c'est même pas un DRM qui est difficile à enlever sur un e-book Amazon. Allez-y, cherchez dans un moteur de recherche comment enlever un DRM sur Kindle. Le premier résultat vous le dira. Si vous êtes paresseux, allez sur n'importe quel site de partage de fichiers et téléchargez une copie sur laquelle quelqu'un d'autre a enlevé le DRM. Le DRM n'a aucun intérêt pour empêcher la copie ici. Son seul but, c'est de permettre à Amazon d'invoquer des nouveaux droits qui permettent de contrôler leurs concurrents, leurs critiques et leurs consommateurs et de limiter leur comportement. Et donc, je pense que c'est dangereux d'avoir cette idée que ces vieils hommes qui contrôlent ces grandes entreprises, ils ne comprennent pas le digital. Non, non, ils comprennent très bien le digital. C'est comme Ronald Reagan, quand il s'est fait choper pour le scandale Iran-Contra, et on lui demandait pourquoi est-ce que vous avez vendu de la cocaïne pour avoir des armes pour donner aux Contras qui décapitaient des gens. Et la défense de Reagan, c'était: Ah, je suis vieux, je comprends pas vraiment, je suis un petit peu confus, est-ce que c'est l'heure de monter? Et les gens disaient: Ah, oh, papy, tu comprenais pas ce que tu faisais quand tu t'arrangeais pour que ces armes soient livrées illégalement. Non, il faut qu'on dise à ces entreprises, c'est que c'est il faut c'est pas que ces entreprises se sont pas adaptées au digital. Ils ont vu très clairement ce que ça voulait dire et ils ont vu une opportunité pour eux de construire un monde dans lequel ils n'étaient pas contraints par des lois créées par des institutions démocratiques. À la place, ils peuvent écrire leurs propres lois et les donner au gouvernement. Parce que les gouvernements, leurs bibliothèques, les instituts, les hôpitaux nationaux ne peuvent pas réparer, les hôpitaux ne peuvent pas réparer leur système de ventilation qui sauve des vies sans casser des DRM. Et donc ça, c'est une nouvelle liberté qui n'est donnée cas de très grandes entreprises. Pour nous, pour tout le monde, on a l'open source. Si vous voulez de l'open source, vous pouvez aller sur GitHub, il y a tout là-bas. Si vous voulez changer comment ça marche, si vous voulez avoir une véritable liberté du logiciel, votre seul choix, c'est de devenir un senior executive, un patron d'une grosse entreprise de software. Et ça, c'est quelque chose qui nous a échappé pendant longtemps. Le fait que il y a une véritable différence. La liberté et l'ouverture, ce n'est pas la même chose. On a beaucoup d'ouverture, mais on a très peu de liberté. Et ça, c'est trop beau pour être, trop vrai pour être beau. Et donc, on a une dernière question. Et après ça, nous avons quelques personnes qui seraient ravies, de pouvoir, avoir une petite conversation avec toi. Il y a un lien vers notre salle d'échange que vous trouverez sur stream.privacyweek.at et vous cherchez le bouton qui s'appelle Pausenraum, la salle de pause. Et vous pourrez discuter là-bas. Et donc la dernière question que je veux poser à Cory ce soir, est-ce que vous pensez que les DRM et les protections sur la propriété intellectuelle vont continuer à s'accroître dans le futur, ou est-ce que le monde open source va au contraire avoir de plus en plus d'élan et mettre vraiment un pied dans la société pour changer les choses? Alors, je pense pas que le monde de l'open source puisse, peut-être que le monde la communauté des gens qui se battent pour les droits fondamentaux, les droits de l'homme, peuvent. L'open source et le DRM ne sont pas forcément incompatibles et on a des combinaisons. Où par exemple, comme je l'ai écrit, le copyright permet quelque chose, mais les brevets l'empêchent. Les brevets permettent autre chose, mais les marques déposées l'empêchent. Ce système, globalement, annule l'open source. Ce qu'on doit faire, c'est s'organiser autour du logiciel libre, pas en tant qu'une collection de licences, mais comme une proposition de valeur. Il faut qu'on puisse dire, on veut la liberté logicielle, indépendamment de la licence. C'est pas assez de juste avoir le code source si on est limité par des contrats d'utilisation qui vous empêchent d'utiliser ce code source d'une façon qui va par exemple améliorer l'interopérabilité et la possibilité de migrer sur un autre logiciel. Et je pense que la meilleure chance qu'on a d'arriver à quelque chose de positif là-dessus, c'est un instrument très large. Quand on regarde par exemple le procès Google contre Oracle, qui est vraiment un procès énorme et qui a vraiment très peu d'attention par rapport à quel point c'est important. Ce procès montre que quand on a un monopole, on a énormément d'argent et on peut prendre une partie de cet argent pour le mobiliser pour changer la loi. Et donc les monopoles s'auto-accélèrent. Ils deviennent de plus en plus rapides, de plus en plus puissants. Et toute exception qu'on crée au copyright, au brevet, au secret d'entreprise, aux marques déposées, cette exception pourra être dépassée par une autre manœuvre, par exemple des accords de non-compétition ou une autre forme de blocage législatif qui permettra aux entreprises de garder leur monopole. Puisque, bien sûr, un monopoliste, sa première préférence, c'est de ne pas être régulé du tout. Et la deuxième est d'être régulé d'une façon dont seul le monopoliste que seul le monopoliste peut satisfaire et qu'aucun concurrent ne peut satisfaire. C'est pour ça que les monopolistes essayent beaucoup de passer des lois pour préserver leur statut. Et donc c'est pour ça que je pense que notre meilleure défense, c'est un instrument simple et efficace, c'est la défense de l'interopérateur. C'est une loi qui est en projet en Europe, dans l'Union européenne. Et cette loi dit, quelles que soient les autres lois, y compris les lois sur les brevets, les secrets professionnels, le copyright, les accords de non-compétition, les marques déposées, etc. Ce n'est pas un crime, jamais, pour quelqu'un de modifier, améliorer, étendre, adapter ou rendre interopérable un produit ou service existant d'une façon qui ne viole pas une autre loi. Donc, ok, si vous violez le RGPD, c'est illégal, etc. Et il va bien sûr falloir encore des juges pour interpréter ça, il faudra savoir qu'est-ce qui viole quelle loi. Mais ça me permettrait de bouger du système qu'on a aujourd'hui, où la question que les juges répondent, c'est est-ce que c'est procédurier, est-ce qu'un brevet a été violé, à une question de légitimité. Est-ce que c'était quelque chose qui est fait pour le bien d'un utilisateur, pour un bien social? C'est des questions qui seront difficiles à tester dans les tribunaux, mais ça permettra de changer la question pour passer à une question d'autodétermination, d'interopérabilité, d'équité, plutôt que des questions d'accès au source code, au code source, de copyright, de brevet, etc. Donc, on parle réellement de ce qui compte ici et pas juste un proxy pour ce qui compte. Merci beaucoup, merci Cory, d'avoir été ici ce soir. C'était une présentation excellente et on est ravis et honorés d'avoir eu cette présentation dans notre humble conférence. Cette présentation est tout entièrement construite sur du logiciel open source, entièrement par des bénévoles. On a 7 jours de contenu pour vous tous, y compris la mise en place des contenus, des traductions, les opérations, les présentateurs et tant d'autres cachés derrière le rideau qui travaillent entièrement sur du logiciel open source pour faire du monde un monde meilleur. Merci beaucoup, Cory Doctorow. Merci beaucoup. Vielen Dank, c'est tout ce que je peux dire en allemand. Merci beaucoup. Et c'est déjà pas mal. Non, j'ai grandi en parlant yiddish, donc je parle vraiment très mal allemand. C'est intéressant. Eh bien, merci beaucoup, Cory.